Le silence se fait, c'est donc le signe qu'il faut commencer. Voilà, je suis particulièrement heureux de vous saluer ce soir, de vous accueillir, non seulement en tant que président du Centre Sèvres, mais aussi en tant que directeur des éditions des facultés jésuites de Paris. Et c'est toujours une joie, en effet, quand l'un des enseignants de la maison publie ici, chez lui donc, l'un de ses travaux. C'est en effet bien la vocation de ces éditions des facultés jésuites de Paris de faire connaître la pensée, le travail de ceux qui cherchent et enseignent en ces lieux. Mais si je puis me permettre, je crois que la joie est encore plus grande quand on sait combien cet ouvrage tient à cœur de l'auteur, au cœur de l'auteur, quand on sait aussi qu'il touche, voire récapitule le travail de tant d'années, et que dans cet ouvrage, l'auteur livre beaucoup de lui-même, de sa recherche intellectuelle bien sûr, mais aussi de sa recherche personnelle, existentielle, croyante. Ainsi en est-il de cet impressionnant ouvrage du père Yves Simons, Évangile selon saint Jean, qui nous donne l'occasion de nous retrouver ce soir, de nous réjouir et de partager avec toi Yves un peu de ta recherche essentielle. Tu es professeur d'écriture sainte ici au Centre Sèvres. Tu es également professeur invité à l'Institut biblique de Rome depuis plusieurs années. J'ajouterais que ton goût et ta connaissance de la parole te conduisent aussi un peu partout pour aider de nombreux groupes, communautés religieuses à entrer dans l'esprit des Écritures. L'ouvrage qui va nous être présenté est en quelque sorte le travail d'une vie, le fruit de 40 ans d'études bibliques, en particulier sur le corpus joannique. Il faut dire que cet évangile de Jean, tu le connais bien, tu l'as arpenté durant des années de long en large, tu en connais toutes les thématiques et les harmoniques, ses difficultés aussi, les questions qu'il pose. Mais ta connaissance de ce texte, elle n'est pas seulement scientifique, elle est, pourrait-on dire, intime. Et tu nous partages cela en suivant le texte, pas à pas. Tu nous partages ce que tu as découvert, compris, reçu de ta fréquentation longue et assidue de cette parole qui engendre d'autres paroles, d'autres vies. Tu nous introduis ici à l'intelligence spirituelle de ce texte en nous montrant combien cet évangile joannique forme en quelque sorte une synthèse de toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament intrinsèquement reliés, une vision de la foi organisée autour de l'incarnation de la parole. Nous sommes donc heureux d'être ce soir réunis autour de cet ouvrage et de toi pour commencer à percevoir les échos et les résonances que tes mots, tes découvertes et tes intuitions suscite en nous. Et merci. Merci tout particulièrement à nos deux invités, lecteurs attentifs de ton ouvrage, qui vont nous dire comment ils l'ont reçu. Merci d'abord à Madame Dominique Hernandez, pasteur de l'Église protestante unie à Palaiseau, diplômée de la faculté de théologie protestante de Paris. C'est vraiment une grande joie de vous accueillir ce soir dans un lieu que vous connaissez bien, puisque je crois que vous nous avez déjà fait la joie et l'honneur d'intervenir ici dans le cadre précisément du cours d'Yves Simons sur saint Jean. Et merci bien sûr au père Michel Fédoux, jésuite qu'on ne présente pas en ces lieux, professeur de patrologie et de théologie dogmatique au Centre Sèvres. Alors sans plus attendre, je vous laisse la parole à tous les deux et ensuite Yves, tu auras sûrement plaisir à répondre et à poursuivre l'échange avec nos invités. Voilà, je laisse la parole à Madame Dominique Hernandez.
À vrai dire, je me trouve bien petite ce soir, devant vous tous, et puis aussi devant ce livre, puisque parler d'une œuvre comme celle-ci, vous l'avez dit, c'est parler de l'œuvre d'une vie de travail, de recherche et qui suis-je pour en parler, alors que j'en ai tellement bénéficié. La recherche du professeur Simons autour du quatrième évangile et du corpus joannique traverse et nourrit tant d'années de lecture, de travail, de poursuite, de reprise. Et quelques mois que j'ai consacrés au 13e chapitre de l'évangile de Jean, c'est infiniment peu. Mais c'est grâce à vous que je l'ai fait. J'ai un peu honte parce que je ne sais plus comment j'ai découvert il y a 5 ans la gloire d'aimer. Cet ouvrage, rencontré lors d'une recherche à l'Institut protestant de théologie, c'est celui-là, c'est votre interprétation qui a fondé et permis mon modeste travail de recherche, bien partiel et tout à fait humble. Mais j'ai retrouvé, en lisant l'évangile de Jean, le même émerveillement, ou plutôt la même gratitude d'émerveiller, en lisant cet impressionnant ouvrage. Je l'ai lu avec un esprit d'heureuse fraternité. Cette fraternité qui naît de l'engendrement des croyants à la vie divine en Christ. Un engendrement auquel vous portez tant d'attention dans l'Évangile. Ce n'est pas rien de se le redire et de l'éprouver en cette année 2017, année particulière de commémoration de la Réforme, 500 ans. Qui ont été pendant si longtemps des années de conflits, de ruptures, de guerres, de méfiance, de condescendance, d'ignorance réciproque. Lire la Bible au-delà des différences de confession, se mettre à l'écoute d'autres interprétations et recevoir de quoi penser, de quoi croire encore et à nouveau, et donc de quoi vivre un peu plus au large, au grand vent de l'esprit. C'est aussi se replacer devant ce qui nous précède tous, de l'archet à la parole de la croix, du don de l'amour en parole, en acte, en pain, en commandement, à la vie sortie du tombeau, mais aussi des ténèbres, des faiblesses, des aveuglements, des reniements, à l'alliance nouée à nouveau. C'est une communauté qui est constituée dans le partage des interprétations. Avec des surprises heureuses, avec des perplexités, sans que l'unanimité soit forcément nécessaire et sans que la peur d'être mis en danger par l'autre vienne rompre la communauté. Et cela m'est apparu très fortement à la lecture de ce livre et j'y reviendrai en conclusion. Je me suis arrêtée un moment, juste sur le titre de l'introduction. L'évangile des surprises. L'introduction où sont relevées ces surprises conjuguées de la gloire de Dieu manifestée dans la chair et de son refus persistant, et aussi les surprises des rencontres qui rythment le récit de l'évangile. Et la lecture de l'ouvrage elle-même a recelé pour moi bon nombre de surprises. Alors ce que je comprends par surprise, ce n'est pas seulement la découverte de quelque chose de tout nouveau, d'inédit ou d'inouï, il y en a eu. Mais aussi le surgissement en clarté de quelque chose qui était un peu enfoui, oublié ou estompé. Ou encore la sensation d'être saisi par l'éclairage d'une idée, d'une phrase et d'entrer un peu mieux dans la compréhension de l'Évangile, comprendre comme prendre en soi, avec soi. Et la première surprise, ça a été celle d'un ouvrage qui, tout en étant le fruit de travaux extrêmement documentés et reposant sur une exégèse solide et de si longue durée, eh bien cet ouvrage n'en est pas moins accessible à un large public. J'attendais un commentaire savant, truffé de références de grec, d'hébreu, de citations, d'autres commentaires depuis les pères de l'Église. Et puis non, j'y suis rentrée, je ne vais pas dire comme dans un roman, mais comme dans un livre de vie. Parce que c'est bien un livre de vie, un livre de foi, comme vous l'avez dit. Et le lecteur est conduit pas à pas, avec délicatesse et enthousiasme. Le vôtre, c'est vrai que vous y êtes. Il m'arrivait parfois d'entendre d'entendre les mots avec votre voix. Enthousiasme au fil des récits et des discours. Des précisions, bien sûr, sont communiquées, de manière toujours concise sur tel ou tel point. Des choses basiques comme l'absence de ponctuation dans les manuscrits grecs, des repères de géographie, des repères d'étymologie. Et tout cela permet d'entrer dans l'ouvrage sans crainte, en étant rassuré. Et c'est une telle qualité d'un auteur qui rassure son lecteur, qui peut ainsi lui faire confiance. Allez, même quand je ne comprends pas tout absolument, je continue, j'y vais. Il n'est pas nécessaire de connaître le grec ou l'hébreu. Les indications relatives aux langues ne sont pas pesantes. Elles n'excluent pas les ignorants de la lecture. Certes, la traduction du texte de l'Évangile peut sembler rugueuse. C'est une traduction de travail quand même, pas de lecture personnelle ni communautaire. Mais elle est délivrée petit à petit, dans chaque chapitre du livre, pour le passage de l'Évangile concerné. Et elle n'est pas donnée sans le commentaire qui la rend compréhensible sans attendre. Et du coup, la retrouver en fin de chapitre, dans son entièreté, permet de la reprendre sans être dérouté ou découragé. Le souci pédagogique est constant, indéniable. Sans jamais nier la complexité de certaines constructions dans les discours, ni l'écart des cultures entre l'écriture du 1er siècle et la lecture du 21e. Sans jamais non plus alourdir une écriture toujours fluide, sensible, parsemée d'éclats où sont déposés en quelques mots des essentiels de sens. Le mot logos, qui exprime la raison d'être de toute chose. C'est pas forcément quelque chose de révolutionnaire. Et pourtant, le trouver là, au détour d'une phrase, eh bien, mais je me suis encore arrêtée pendant un long moment. Ou alors, au sujet de commentaire du 6e chapitre, celui-là, qui viendra de Jésus, deviendra à son tour pain, nourriture véritable pour les autres. Et là aussi, je me suis arrêtée, j'ai repensé à toute ma communauté de Palaiso, à cette scène que nous partageons chez nous deux fois par mois, à ce qu'elle implique, à ce qu'elle engage, à ce qu'elle fait grandir en chacun. Et j'étais très, très émue. Et puis encore, à propos de l'aveugle guéri en Jean 9, le croyant est un autre Christ. Un peu tout le programme de l'Évangile, pour le dire de façon très concentrée dans votre lecture. Le croyant est un autre Christ. Et cela ouvre à une longue méditation que ce devenir promis, donné, offert et reçu non sans hésitation, non sans incompréhension et parfois non reçu, y compris par celui qui lit le texte, qui lit l'Évangile. Le croyant est un autre Christ. Ne saurais-vous dire combien de visages j'ai vu apparaître devant mes yeux en lisant ces six mots. Et j'y suis revenue encore et j'y reviendrai à nouveau. Dans ce souci de prise en compte du lecteur, se tient également l'ouverture vers la prédication. Ça a été une surprise, je ne m'y attendais pas non plus. Mais comme pasteur, prêchant quasiment tous les dimanches, comme prédicateur, prédicatrice, je ne sais pas trop si on peut le dire au féminin, je garde précieusement quelques pages où sont déposées des pistes de réflexion. Et ça m'a redonné envie de prêcher sur l'Évangile de Jean. Non pas que je ne le fasse plus, mais j'ai encore envie de le faire à nouveau. Par exemple, la fin du commentaire, du dialogue avec Nicodème. Un texte très, très précieux dans l'Église réformée, une des deux composantes de l'Église unie, qui est la mienne, mon Église d'origine. Nous avons il y avait dans la déclaration de foi de l'Église réformée un seul verset biblique. Jean 3:16. Dieu a tant aimé le monde. Eh bien, dans ce chapitre-là, de ce verset que j'entends plusieurs fois par an, dans des assemblées générales, dans les synodes, eh bien encore, trouver de quoi penser un peu plus et de quoi offrir à penser un peu plus. Un peu plus loin, dans Nicodème, la mention du serpent des reins élevé. Enfin, voilà, tant d'autres points pour dire cet évangile-là, c'est celui de la vie de chacun. Il est pour la vie de chacun. Et c'est que vous ayez mis la vôtre qui le rend ainsi en résonance avec celle des lecteurs. Vous écrivez dans l'introduction, l'ouvrage s'adresse à tout amoureux de la vérité. J'ajouterai à tout chercheur de sens, à tous ceux qui se mettent en quête dans l'espace du sens déployé par le quatrième évangile. Et je dirais sens dans tous les sens du terme. Puisque cette chair dans laquelle la parole s'est incarnée, eh bien, c'est la nôtre et qu'elle n'est pas sans les sens du goût, du toucher, de l'ouïe, de l'odorat, qui ne sont pas absents de l'évangile. Beaucoup de surprises également dans une enquête au plus près des mots et des noms, et que c'est beau cette attention aux mots, aux noms, pour les déployer dans toutes leurs possibilités et dans tous leurs échos, dans une intertextualité interne à l'évangile, mais surtout interne à l'ensemble du corpus biblique. L'Ancien Testament est presque tout entier dans l'évangile de Jean, par écho, par référence, par horizon déployé, par racine révélée dans votre livre. Ainsi, Pierre, fils de Jean. J'avais jamais remarqué ça, que Pierre était fils de Jean. Alors évidemment, quel Jean? Qui est Jean? Forcément, quand on lit l'évangile de Jean, voilà, ce pourrait être le disciple bien-aimé, l'innommé de l'évangile. Alors, on ne va pas plus loin. Le récit ne fait que suggérer. Mais cette suggestion, elle est elle-même à la fois souriante et elle ouvre. Ou bien Joseph, le charpentier de Nazareth, bien sûr, mais aussi le patriarche de la Genèse, le dernier des patriarches. Celui qui reconnaît que Dieu peut retourner le mal commis par les hommes en bien pour le peuple. Et n'est-ce pas ce qui se produit presque constamment au fil de l'évangile de Jean, avec toute cette hostilité qui n'empêche pas le bien d'être donné. Et puis autre chose m'est apparue aussi, mais comme quoi des petites choses. Mais c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de petites choses que j'ai trouvé que c'était réellement un très grand livre. Je n'avais jamais remarqué, ou j'avais oublié, qu'il y avait tellement d'eau dans l'évangile de Jean. Ça coule. Du Jourdain au jardin de Cana, à la piscine de Bethesda, celle de Siloé, des larmes et de la salive du corps. Et l'eau d'un puits où est donnée l'eau vive, et la mer où Jésus marche, dans laquelle les disciples pêchent. Une eau qui permet de dire à sa manière et avec tout ce qu'elle permet d'évoquer. Une eau qui dit à la fois l'humain et le divin, et leur rencontre, et le devenir de l'humain dans le divin. Devenir, c'est un mot-clé de l'évangile, qui prend en charge aussi bien les ténèbres que la lumière, le rejet que la foi. La volonté de Dieu et le souffle de l'Esprit. Et puis je m'arrête là parce que la liste serait longue et je vous laisse les autres à découvrir. Surprise encore que ces arcs tendus d'un bord à l'autre de l'Évangile, chacun relevé avec vigueur et persévérance. Et il y en a beaucoup. Alors bien sûr, peut-être que le principal, on devrait dire que c'est celui de l'Alliance. La nouvelle alliance, depuis le prologue jusqu'au 21e chapitre. Mais il y en a beaucoup d'autres. Mais il en est un qui m'a particulièrement marqué. Et voilà, les autres, vous les relèverez vous-même. D'une extrémité à l'autre de l'étude, c'est le paradoxe de la gloire humble. il se déplie aussi bien du côté de Jésus-Christ que du côté des disciples, des humains. Dès le prologue, il est souligné que le pouvoir devenir enfant de Dieu est un pouvoir donné, un pouvoir à recevoir donc, un pouvoir qui n'est pas à prendre, un pouvoir à rebours de la compréhension de la pratique commune humaine du pouvoir. Le pouvoir de renoncer au pouvoir, écrivez-vous. Les enfants de Dieu ne sont pas des conquérants, mais des témoins. Et ce qu'ils deviennent les place en porte-à-faux par rapport aux critères et aux exigences du monde en termes d'appartenance. Une thématique ô combien actuelle et pas dans ses meilleurs déploiements. Ce que deviennent les enfants de Dieu, eh bien, ce sont justement des personnes qui ne tirent pas leur identité d'aucune caractéristique, d'aucune condition humaine. Le récit et la guérison de l'aveugle en Jean 9 le met en scène très clairement dans le cheminement de cet aveugle guéri entre la peur de ses parents et l'hostilité d'une partie des Juifs. Autre exemple, bien sûr, en Jean 13, avec le lavement des pieds, où la part donnée avec Jésus est donnée dans le plus humble service de l'autre. Et c'est ainsi que Jésus attire ses disciples là où il est, dans sa seigneurie paradoxale de seigneurie-service, au plus bas pour les hisser au plus haut, parce que le plus haut se trouve au plus bas. Chacune des rencontres de Jésus porte comme fruit le relèvement de la personne rencontrée bien au-delà de l'imaginable. La Samaritaine qui devient missionnaire, l'aveugle qui devient Christ. C'est bien cela, n'est-ce pas? Avec en perspective l'alliance conclue dans le discours sur le pain de vie, à propos duquel vous écrivez que le lien entre Eucharistie et résurrection est la condition de possibilité pour le croyant d'être à son tour pain vivant pour la vie du monde, conformé au Christ. La seigneurie paradoxale de Jésus-Christ est visible, lisible dans tout l'Évangile et fidèlement expliquée dans l'ouvrage. Dès le témoignage de Jean, « Voici l'agneau de Dieu, sur fond de serviteurs souffrants d'Ésaïe. » La révélation de Dieu par Jésus, dites-vous, n'a rien de sublime, sinon en creux, dans son absence totale d'éclat et de séduction. De même, la prière glorifiante est celle d'un abandon total dans les mains du Père. De même, à la croix, la nudité de Jésus avec le partage de la tunique qui symbolise la prêtrise et la royauté, cela signale qu'il est roi et prêtre en abdiquant tout honneur lié à de telles charges. Le Seigneur ressuscité, lui aussi, vient toujours à hauteur de ses disciples, s'inquiétant de ce qu'il n'ait rien à manger. Ou reprenant le verbe utilisé par Pierre, philéine, au lieu d'agapéine, pour lui permettre d'aller jusqu'au bout de sa confession d'amour. Et absolument conjointe à cette seigneurie paradoxale, il y a la non-violence de Jésus. Et là encore, c'est peut-être l'actualité quotidienne qui m'a permis d'entendre avec une intensité accrue, cette dimension de l'Évangile, dont vous parlez à plusieurs reprises, comme une interpellation pour tous les disciples. Et l'Évangile est à ce prix du refus de la violence, pas seulement lors de l'épisode de la femme adultère, pas seulement lorsque Pierre sort son couteau contre le serviteur du grand prêtre. Jésus ne répond jamais au mal par le mal. Même pas, surtout pas, à Judas, quand celui-ci va le livrer. J'ai parlé quand même de quelques perplexités. L'une concerne la mère de Jésus. À Cana, d'abord, L'adresse de Jésus à sa mère, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Cela indique bien, effectivement, une mise à distance du registre de la filiation mère-fils. Mais que dans le même temps, la mère devienne image de l'épouse, de l'époux, le fils, cela pour moi est resté obscur. La mère est-elle figure de l'Église, de cette épouse, Église, communauté des croyants, Israël? Il est à nouveau question dans le dernier discours en Jean 16. Et là, la mère de Jésus est tout à fait absente. Il s'agit de ce passage de la femme qui enfante et qui est dans les douleurs jusqu'à la joie. En revanche, la mère de Jésus est bien présente à la croix avec trois autres femmes. La sœur de la mère, Marie, femme de Clopas, Marie la Magdaléenne. Quatre femmes dont vous écrivez qu'elles représentent l'icône de l'Église dans son identité féminine, maternelle, fraternelle, sponsale et aimante. Mais n'est-ce pas à cet endroit-là le disciple bien-aimé qui représente la communauté des croyants, qui prend la mère chez lui comme mère de la communauté? Et là, vous l'appelez Marie, nom qui ne lui est pas donné dans l'évangile de Jean. Et là, voilà, je me suis trouvée un peu perplexe. La communauté des croyants, n'est-ce pas l'Église? Auquel cas la mère de Jésus ne serait-elle pas, à Cana, comme à la croix, plutôt l'image d'Israël, l'alliance ancienne, non pas dévalorisée, mais reprise, j'oserais dire cousue, dans la nouvelle alliance du point de vue de l'évangile de Jean? C'est vrai qu'il y a peut-être bien là deux lieux différents, celui d'un auteur catholique et d'une lectrice protestante. Ce qui me ramène à la communauté de lecture que j'évoquais au début, communauté des lecteurs d'un livre, d'une bibliothèque, qui les précède, qui leur est donnée, qui les conduit de découverte en approfondissement de leur foi avec leurs traditions diverses. Les protestants aussi ont une tradition, il ne faut pas croire le contraire, hein. Mais chacun est replacé devant l'Évangile, avec un E majuscule, depuis son propre point de vue. L'expérience de la lecture de votre livre me fait mieux comprendre, expérimenter, et c'est une expérience profonde, je dirais même dans la chair, comprendre que ce que je ne comprends pas, pas plus que ce que je ne partage pas, cela ne me met pas en danger. Parce que, et c'est au cœur du quatrième évangile, comme vous le montrez avec tant d'énergie et en même temps tant de délicatesse, ce qui est au cœur du quatrième évangile, c'est ce qui m'engendre comme enfant de Dieu, n'étant rien menacé par nos différences. Et de la même manière, ce qui vous fait devenir enfant du Père, que vous soyez fils de Dieu, je le reconnais et j'en rends grâce un peu plus, avec un peu plus de conscience, grâce aussi à ce que je n'ai pas partagé, ce que je n'ai peut-être pas compris. En tout cas, j'étais entrée dans la lecture de votre ouvrage avec une dette de reconnaissance à votre égard depuis quelques années. Une dette qui ne me pèse pas. Mais j'en sors avec une dette encore plus grande, qui ne me pèse pas non plus. Au contraire, elle m'aide, certainement parce que, en fait, il s'agit d'un don de votre part. Et j'espère bien que d'autres en bénéficieront encore.
Merci beaucoup, Madame, pour votre intervention, pour ce partage reconnaissant d'heureuse fraternité dans une communauté de lecture, comme vous l'avez dit. Vous nous avez partagé combien ce livre a été nourriture pour vous, un livre de foi, avec toutes les surprises, les redécouvertes aussi, les perplexités, que vous avez soulignée. Merci beaucoup. Nul doute que vos paroles ont rejoint et touché le Père Simons, qui essaiera peut-être de faire tomber quand même quelques perplexités tout à l'heure. Mais surtout, vos paroles aussi, je crois, nous ont donné envie à chacun ce soir, amoureux de la vérité, chercheurs de sens, chacun à notre manière, eh bien de nous plonger, de lire sans crainte cet ouvrage, parce qu'il y a, vous l'avez dit dans ce livre, le souci permanent du lecteur, le souci de l'accompagner sur la route de sa propre lecture et de sa recherche essentielle. Merci beaucoup, vraiment. Sans plus attendre, je laisse la parole maintenant au Père Michel Fédoux, qui connaît bien toute l'œuvre du Père Yves Simons et qui nous livre à son tour ce que la lecture de ce dernier ouvrage a suscité en lui. Merci Michel.
Merci beaucoup. Je suis très heureux d'intervenir à mon tour à propos de ce nouvel ouvrage du Père Yves Simons. Nouvel ouvrage non point d'abord pour son objet, puisque l'auteur a déjà donné il y a 20 ans un volumineux commentaire de l'Évangile selon Jean, en 2 volumes, accompagné d'une traduction littérale. Nouvel ouvrage plutôt au sens où nous est donné ici une lecture qui, certes, ne renonce nullement à la rigueur des analyses textuelles, mais qui se présente désormais en un seul volume, plus synthétique, en même temps qu'enrichi de nouvelles découvertes, et surtout un volume qui bénéficie de cet approfondissement qu'ont permis depuis une 20aine d'années les enseignements, les publications d'Yves Simons, les retraites qu'il a données selon l'Évangile de Jean, et plus que tout, bien entendu, son incessante fréquentation des écrits johanniques. S'il est vrai que l'auteur du 4e Évangile n'a pas cessé de méditer sur la vie de Jésus et sur le mystère de Dieu qui se révèle par et dans cette vie, bien je crois qu'on peut dire que l'auteur du livre qui nous réunit ce soir, lui-même, n'a pas cessé de méditer à son tour sur ce qui nous est transmis par l'évangéliste. Et nous comprenons bien que l'enjeu n'est pas simplement de l'ordre d'une connaissance simplement intellectuelle, mais que l'enjeu est d'abord de l'ordre de la vie, si du moins l'on a en mémoire l'avertissement de l'évangéliste lui-même à la fin du chapitre 20, les signes rapportés dans cet évangile l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La richesse du livre interdit bien évidemment de reprendre tous les thèmes qui mériteraient de l'être. Et j'ai donc choisi pour cette brève intervention d'évoquer simplement 6 points qui permettront au moins de suggérer l'intérêt que j'ai porté, que je porte à cet ouvrage du point de vue de la théologie chrétienne, peut-être plus spécialement encore du point de vue de la théologie dogmatique. Premier point, l'insistance d'Yves Simons sur le rapport de l'évangile de Jean aux écritures qui le précèdent. Et Madame Hernandez a déjà touché ce point. Toutes les fois qu'il est possible, Yves Simons montre comment tel ou tel verset du 4e évangile s'éclaire par certains passages de l'Ancien Testament. Il souligne en particulier l'importance de la référence à Isaïe, qui est, écrit-il, le principe scripturaire majeur d'interprétation du 4e évangile. Mais à travers ou par-delà la référence à certains versets ou à certains livres de l'Ancien Testament, c'est une conviction plus fondamentale qui habite Yves Simons et qu'il formule avec la plus grande netteté dans ses pages de conclusion, je cite à la page 468, « L'accomplissement de l'Ancien Testament dans le Christ est le principe majeur de l'écriture johannique. » Le principe majeur de l'écriture johannique. Nous n'ignorons sans doute pas, bien sûr, les soupçons dont le concept d'accomplissement a fait parfois l'objet ou fait parfois l'objet dans la théologie contemporaine. On dénonce, à juste titre, un certain usage de ce concept qui reviendrait à méconnaître l'altérité d'Israël et le droit des Juifs à interpréter autrement leurs propres écritures. Mais le livre d'Yves Simons rappelle avec force qu'une lecture du quatrième évangile ne peut pas pour autant renoncer à ce concept d'accomplissement. Pourvu, bien sûr, que nous usions du principe d'accomplissement avec discernement, sans attiser les haines, comme le dit Ipsy Wounds, mais bien plutôt dans la reconnaissance de ce que nous recevons des autres à travers Jésus, sans que nous en soyons les auteurs ni l'origine. Au demeurant, j'ajouterais que l'accomplissement de l'Ancien Testament dans le Christ n'est pas de l'ordre d'une vérité que l'on pourrait imposer à quiconque. Bien évidemment, il s'agit plutôt d'un événement qui ne peut être que librement reçu, librement accueilli dans la foi. Mais cet événement, l'acte du Christ qui accomplit les Écritures anciennes, eh bien, pour reprendre à nouveau la formule d'Ipsy Wounds, le principe majeur de l'Écriture joannique, et l'on en devine les incidences sur la théologie chrétienne, qui, aujourd'hui même, ne saurait rendre compte de la foi au Christ sans essayer de montrer comment des figures, des prophéties de l'Ancien Testament se trouvent effectivement accomplies par le Verbe fait chair et ultimement dans l'événement pascal. Je soulignerai un deuxième point. Le livre d'Ipsy Wounds montre à sa manière comment l'évangile de Jean est fondateur d'une christologie attentive à souligner inséparablement l'humanité de Jésus et sa filiation divine. Humanité, d'abord. Ipsy Wounds ne relève pas seulement les traits proprement humains que le quatrième évangile attribue à Jésus, notamment à travers des épisodes comme la rencontre avec la Samaritaine, l'épisode de Lazare. Mais Ipsy Wounds fait aussi écho aux recherches qui ont permis d'établir que, sur certains points, l'évangile de Jean est une source particulièrement fiable pour quiconque veut accéder à ce qu'on appelle le Jésus de l'histoire. Ipsy Wounds le montre, par exemple, à propos de la date de la scène, la chronologie joannique devant être ici privilégiée par rapport à celle des synoptiques. Humanité, historicité de Jésus, oui, et inséparablement, filiation divine de Jésus. Et c'est bien là la pointe même de l'évangile, témoigner de ce que cet homme de notre histoire, Jésus de Nazareth, est lui-même le Fils de Dieu. Et le premier chapitre de l'évangile le montre déjà à lui seul, avec l'admirable construction qui est la sienne, et que Ipsy Wounds met très très bien en évidence. D'abord, un premier prologue qui part de la considération du Verbe de Dieu auprès de Dieu, et qui de là mentionne la venue du Verbe parmi les siens, le Verbe devenu chair. Puis un second prologue, que l'on appelle souvent le prologue narratif, qui procède en quelque sorte de manière inverse, puisqu'il présente dans un premier temps Jean le Baptiste, et Jésus lui-même dans son humanité, puis, vers la fin, ce prologue narratif nous livre la confession de foi en Jésus comme Fils de Dieu. La christologie ultérieure du Concile de Chalcédoine au Ve siècle a certes son propre langage, une personne en deux natures. Mais nous percevons bien que ce langage trouve ici même un fondement décisif. Il me semble important que ce fondement puisse être rappelé sur la base de la lecture proposée par Ipsy Wounds. Ce fondement doit être rappelé, d'une part, face aux positions qui voudraient évacuer l'histoire de Jésus comme un mythe, et cela peut encore arriver, soit face au courant beaucoup plus répandu, il est vrai, qui porte à voir en Jésus un homme parmi d'autres, ou à la rigueur, un homme supérieur aux autres, mais sans aller jusqu'à discerner en lui le Fils de Dieu. Enjeu donc pour la christologie. Troisième point, je l'intitule « La gloire avant la croix ». Non pas « La gloire et la croix » selon le titre que le célèbre ouvrage « Herrlichkeit » de Hans Urs Balthasar a reçu dans sa traduction française, mais bien « La gloire avant la croix ». Car même s'il est vrai que pour l'évangéliste, la gloire se manifeste ultimement à l'heure de la croix, mystère de mort et de vie, Ipsy Wounds souligne avec beaucoup de vigueur qu'il y a déjà dans l'évangile de Jean deux temps de la glorification avant cette heure de la croix. Le premier est au chapitre 13. Jésus déclare « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié ». Il prononce cette parole alors même qu'il vient de donner la bouchée à Judas et que celui-ci est sorti pour trahir son maître. La gloire du Fils est donc liée intimement au don que le Fils fait de lui-même avant de subir la passion. Un don radical, s'il en est, puisqu'il s'exerce à l'adresse même de celui qui va le livrer. Le deuxième temps de la glorification, lui, se trouve au chapitre 17. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, pour que ton Fils te glorifie, et que, par le pouvoir sur toute chair que tu lui as conféré, il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. » La gloire peut être définie, selon Issemouns, comme, je cite, « plénitude de la relation du Père au Fils communiquée à l'humanité. » Communiquée à l'humanité. Et nous présentons les enjeux de cette interprétation pour la théologie chrétienne, pour la théologie dogmatique en particulier. D'une part, cette interprétation évite de restreindre la glorification joannique au seul événement de la croix, mais elle rattache cette glorification avant tout au don, à la donation radicale que Jésus a déjà accomplie avant l'heure de la croix, même si bien sûr la croix en demeure la manifestation ultime. Et d'autre part, la lecture proposée par Issemouns fait échapper au risque d'une concentration exclusive sur la relation entre le Fils et le Père, ou plus exactement, cette lecture laisse bien paraître que ce qui advient entre le Père et le Fils est intrinsèquement ordonné à la vie des croyants et à la vie de l'humanité entière. C'est là, je pense, un enjeu tout à fait décisif. Ce que j'ai dit à l'instant sur la première glorification, au chapitre 13 de l'évangile de Jean, invite à souligner, me semble-t-il, un quatrième point qui ressort fortement du livre, un certain regard sur le mal, ou, pour le dire en termes joanniques, un certain regard sur les ténèbres qui sont à l'œuvre dans le monde. On retient d'abord l'interprétation qui est développée à propos de Judas. Sans aucunement occulter la gravité de la trahison, Issemouns souligne que c'est Satan, et non Judas, qui est présenté comme premier et ultime responsable du péché. Et de plus, quelle que soit l'insistance de l'évangile de Jean sur le thème des ténèbres, sur le conflit entre les ténèbres et la lumière, Issemouns souligne avec raison qu'une interprétation dualiste doit être absolument écartée. Ainsi que cela ressort déjà du prologue joannique, la lumière en la ténèbre lui et la ténèbre ne la saisit pas. Jean 1,5. Issemouns a ce commentaire, lumière et ténèbres ne sont jamais situées sur le même plan. La ténèbre est absence de lumière. Elle est seconde par rapport à la lumière première. La priorité de la lumière fonde l'espérance de la lumière pour la fin. Je pense que cette insistance est particulièrement bienvenue, surtout si l'on a en mémoire les nombreuses « récupérations » entre guillemets dont l'évangile de Jean a jadis fait l'objet, soit dans le cadre des exégèses gnostiques en général. À notre connaissance, le premier commentaire de l'évangile de Jean a été fait par un auteur gnostique, auquel Origène a répondu au IIIe siècle. Récupération dans le cadre d'exégèse gnostique, ou plus spécifiquement, récupération dans le cadre du manichéisme, qui est apparu au IIIe siècle, et qui peut être lui-même considéré, en fait, comme une forme de gnosticisme, un dualisme extrêmement radical entre la lumière et les ténèbres. Et l'insistance d'Issemouns garde aujourd'hui même tous ses enjeux, car si nous avons, à juste titre, le souci de ne pas occulter la gravité du mal, surtout après les tragédies des guerres mondiales et d'autres catastrophes qui se sont abattus depuis lors sur l'humanité. La tentation, néanmoins, existe toujours de se représenter le mal comme étant en quelque sorte à hauteur du bien. La tentation existe de se représenter la ténèbre comme aussi puissante que la lumière. Or, le message joannique, si lucide soit-il sur l'œuvre du mal dans le monde, maintient fermement que la lumière l'emporte sur la ténèbre. Ce qui, certes, ne fait nullement échapper aux épreuves et aux drames de l'histoire, on le voit bien à travers l'Apocalypse en particulier, mais ce qui fait luire au cœur même des épreuves et au cœur des souffrances de l'humanité l'espérance d'une victoire finale, ainsi qu'il ressort des derniers mots de Jésus dans son discours ou dans ses discours après la scène, « Gardez courage, j'ai vaincu le monde ». En cinquième lieu, je soulignerai l'importance de la thématique Israël-Nation à travers l'ensemble de l'ouvrage. C'est quelque chose d'absolument passionnant, c'est d'un bout à l'autre. Yves Sebone s'est très attentif à la manière dont l'évangéliste Jean présente tout à la fois l'inscription de Jésus dans le peuple d'Israël et la portée universelle de ce qui advient en lui et par lui. Du côté d'Israël, il ne se contente pas d'attirer l'attention sur la parole de Jésus à l'adresse de la Samaritaine, « Le salut vient des Juifs », ni plus largement de présenter l'événement du Christ dans sa relation à la Première Alliance, mais fortement conscient des prises de position fréquentes, récurrentes sur l'antijudaïsme du quatrième évangile, Yves Simons leur fait face frontalement. Il fait face frontalement à ces positions, y compris à propos des paroles qui sont le plus souvent invoquées dans ce contexte-là, comme par exemple la parole de Jésus aux Juifs, « Vous avez pour père le diable » en Jean 8, 44. Ce n'est pas d'antijudaïsme qu'il s'agit, encore moins d'antisémitisme. Il s'agit plutôt d'une mise en évidence du mal dont la paternité déborde les interlocuteurs de Jésus, puisqu'elle est attribuée au diable. Il s'agit là, nous dit Yves Simons, d'une mise en évidence salutaire, car démasquer ainsi le mal, c'est offrir le moyen de ne pas y succomber. L'insistance sur le lien à Israël a pour corollaire une insistance non moindre sur les nations, sur l'humanité en général, car l'économie de l'alliance avec Israël, économie qui culmine dans l'incarnation du Verbe et dans le mystère pascal, l'économie de l'alliance avec Israël est elle-même ordonnée à un horizon universel. Yves Simons le montre déjà à propos du prologue joannique, mais il y revient en maintes pages de son livre, y compris à propos de la fameuse prière de Jésus pour l'unité, ça fait partie des surprises que j'ai eues moi-même, la fameuse prière de Jésus pour l'unité au chapitre 17 de l'Évangile, prière où l'on voit très souvent un fondement du travail œcuménique pour l'unité des chrétiens, mais c'est une prière qui, comme le montre Yves, a un horizon beaucoup plus large. Il s'agit du genre humain tout entier comme finalité de la mission chrétienne. Je relève enfin un sixième thème, l'un des plus importants sans doute, je rejoins d'ailleurs des remarques de Madame Hernandez sur ce point. C'est un thème qui est d'ailleurs sous-jacent à plusieurs des autres thèmes que j'ai précédemment évoqués, le thème de l'engendrement. Le thème de l'engendrement. Yves Simons met en évidence ce thème dès les premières pages à propos de ce qui est le cœur du prologue joannique. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, eux que ni sang, ni vouloir de chair, ni vouloir d'homme, mais Dieu a engendré. Et Yves Simons commente, je cite, « L'évangéliste cherche à définir l'effet de l'incarnation du Verbe-parole dans le croyant avant de traiter de l'incarnation de Jésus au verset suivant. C'est le message le plus central et le plus précieux parce que le Verbe devint chair, chair devint, mot à mot, le croyant bénéficie de ce don d'incarnation à son tour. Il ne participe pas de la conception virginale, mais par la venue de Jésus en notre chair, Il participe de l'engendrement du Fils par le Père. Il s'agit donc de l'engendrement du croyant par Dieu. Dieu s'engendre dans le croyant. Page 36, texte très important dans ce chapitre. Et la suite de l'Évangile donne à Ipsimunds maintes occasions de reprendre ce thème de l'engendrement. Bien évidemment, à propos de l'entretien avec Nicodème, mais aussi de façon peut-être plus inattendue, à propos de l'aveugle né, au chapitre 9. Aveugle né, aveugle de naissance, traduit-on habituellement. Mais Yves Simons fait remarquer que le texte dit très exactement « un homme aveugle d'engendrement ». Et, en citant de nouveau le prologue joannique, il commente « c'est la clé de l'événement raconté, Jésus fait passer d'un engendrement à un autre. Engendré par ses parents, l'aveugle ne voit pas la réalité de la foi. Engendré par Jésus à la vie de Dieu, il accède à la vision de foi. » Et plus loin, cette fois-ci à propos du chapitre 17 de l'Évangile, on a ce résumé saisissant. « La présence du Fils dans les croyants, telle est la révélation. » La présence du Christ, du Fils dans les croyants, telle est la révélation. Elle consiste en l'engendrement de Dieu qui caractérise la foi. C'est la définition même de la foi. Et je pense qu'on ne saurait trop souligner la portée de cette lecture. Elle n'enlève rien, bien sûr, à la singularité, à l'unicité du lien qui, dans l'esprit, unit le Père au Fils, l'unique engendré, le monogénès. Mais cette lecture montre comment ce lien, dans sa singularité même, est au profit des croyants qui viennent d'Israël ou des nations, se laissent eux-mêmes engendrer pour être les frères de l'unique engendré et pour communier par ce fait même à la vie de Dieu. Il est clair que bien d'autres thèmes pourraient être encore relevés, mais je pense que ceux que j'ai retenus suggèrent déjà non seulement l'intérêt de l'ouvrage pour quiconque cherche à mieux comprendre le texte même de l'Évangile, mais aussi, et par cette voie même, l'importance de cet ouvrage pour la théologie chrétienne. Et je voudrais terminer, conclure précisément par une réflexion sur ce dernier point, l'importance pour la théologie chrétienne, une réflexion sur laquelle je suis d'ailleurs heureux d'entendre commentaires, réactions d'Yves. Comme nous le savons, l'actualité œcuménique de l'année 2017, 500e anniversaire des origines de la réforme luthérienne, donne l'occasion de réaliser plus que jamais combien l'Occident latin a été marqué par la théologie paulinienne. C'est bien sur l'interprétation des épîtres de Paul que catholiques et protestants se sont jadis divisés, et c'est aussi une nouvelle lecture de ces mêmes épîtres qui les aide aujourd'hui à surmonter leurs divisions, comme on l'a vu notamment avec la fameuse déclaration d'Augsbourg sur la justification par la foi, en 1999. Et on ne peut que se réjouir profondément de cette évolution. Mais on peut aussi se demander si la remarquable postérité des épîtres pauliniennes dans la dogmatique protestante et la dogmatique catholique n'a pas eu pour corollaire, à certains moments, une moindre attention à la portée théologique du quatrième évangile. La question, d'ailleurs, n'est pas seulement suggérée par l'ampleur des débats entre catholiques et protestants sur la façon de comprendre les épîtres pauliniennes. La question se pose déjà à propos de l'Antiquité latine et du Moyen-Âge. Car, même s'il est vrai que Augustin nous a laissé d'admirables homélies sur l'évangile de Jean, le fameux Tractatus in Johannem, malgré tout, ce sont plutôt les développements d'Augustin sur la doctrine paulinienne qui ont le plus retenu l'attention par la suite, compte tenu de son fameux conflit avec Pélage et de toutes les controverses qui s'en sont suivies. Pour ce qui est en tout cas de la théologie contemporaine, il est aisé de reconnaître l'influence toute particulière que les épîtres de Paul ont exercée sur des théologiens protestants, comme Karl Barth, bien évidemment, mais aussi sur des théologiens catholiques, comme Henri Bouillard, Henri de Lubach, Karl Rahner, tant la question de la grâce et de la liberté a été centrale pour ces théologiens. On peut certes objecter que la théologie de Hans Urs von Balthasar, elle, est profondément marquée par l'évangile de Jean, en particulier dans les volumes Herrlichkeit, qui donnent une place essentielle à la thématique, résumée par le titre « La gloire et la croix ». Mais je pense que cela ne suffit pas à infirmer le constat précédent. Or, justement, l'ouvrage d'Yves Simons suscite l'espoir que les théologies d'Occident, tout en continuant de se laisser féconder par la doctrine paulinienne, se laissent non moins féconder par l'héritage du quatrième évangile. Elles n'en recueilleraient pas seulement des fruits pour elles-mêmes, mais on peut penser qu'elles y trouveraient la chance d'échanges approfondis avec des théologies de l'Orient grec et de l'Église orthodoxe, qui depuis l'époque des Pères reconnaissent dans la littérature johannique une source d'inspiration majeure. L'apôtre Paul, lui-même inséparable de Pierre, a permis que la révélation évangélique puisse atteindre, depuis Athènes et Corinthe, les pourtours occidentaux du bassin méditerranéen. Quant à Jean, qui se présente dans l'Apocalypse comme réfugié dans l'île de Patmos, il est davantage demeuré en Orient, en quelque sorte, et d'une certaine manière, il y demeure de façon privilégiée, comme le rappelle sa fréquente représentation à côté de la Théotokos sur l'iconostase des églises orthodoxes. Il me semble que la théologie chrétienne a vraiment besoin de Jean comme de Paul et de Pierre, et en tout cas, le livre d'Yves Simons nous aide particulièrement à nous en convaincre.
Merci beaucoup, Père Michel Fédou, de nous avoir partagé ta lecture de l'ouvrage d'Yves Simons en montrant la nouveauté et toute la richesse, notamment en mettant en lumière un certain nombre de points fondamentaux qui sont au cœur de cet ouvrage. Je les rappelle, l'accomplissement des Écritures comme principe majeur de l'Écriture johannique, la christologie qui tient ensemble l'humanité de Jésus et filiation divine, le thème de la glorification, glorification qui est déjà manifestée, affirmée avant même l'événement de la croix, un certain regard sur le mal, tu l'as souligné, sur les ténèbres à l'œuvre dans le monde, l'importance, bien sûr, de la thématique Israël-nation qui façonne l'écrit johannique, et enfin, le thème de l'engendrement. Merci beaucoup, de manière aussi limpide, aussi claire, pour toutes ces mises en lumière qui montrent encore un peu plus la force et l'importance, tu l'as dit, de l'ouvrage qui nous rassemble ce soir. Alors le temps est venu, Yves, de te laisser la parole, et je suis sûr que ce qui vient d'être dit suscite en toi d'autres paroles nourrissantes pour nous tous ici ce soir.
C'est surtout beaucoup d'émotions, et alors comme on dit parfois, n'est-ce pas, je suis ému, vives émus. Donc, je prends la parole d'abord pour remercier, un très chaleureux merci à François Boydeck, président du Centre et directeur des éditions Faculté Jésuite de Paris, d'avoir permis cette soirée autour de l'Évangile selon Jean. À travers lui, au titre de responsable de nos éditions, merci aussi à Madame Katie Ofshir, je ne sais pas si elle est présente dans l'Assemblée, mais qui a si bien peaufiné la publication. Merci beaucoup à vous, j'ose dire Dominique, en présence d'Éric, pour votre présence à nos côtés. Grâce à l'amitié d'Anne-Marie Petit-Jean, l'Évangile selon Jean a permis nos échanges et notre collaboration intérieure. Les participants au cours sur cet évangile, en 2013, dans cette maison, se souviennent de votre intervention sur Jean 13. J'ai eu des échos jusque dans des examens, parfois austères, mais ponctués d'une joie particulière de vous avoir entendu. Merci alors évidemment à Michel Fédou, dans son goût pour l'écriture parmi ses nombreuses autres axes d'études, il a bien voulu participer à cette rencontre après avoir déjà réagi à la première publication de Selon Jean lors de mon arrivée à Paris, il y a 20 ans. Et puis, il a aussi participé à la présentation de l'ouvrage sur les lettres de Jean et plus récemment, en 14, à Hommes et femmes, de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, il pardonneront de faire allusion à eux, mais ils sont dans la salle. Alors merci encore à Geneviève Véret et à Jean-Louis Préat pour leur aide si précieuse. Merci enfin à vous tous pour votre présence qui témoigne de votre intérêt que je ne saurais jamais assez encourager à l'égard de ce monument de la littérature biblique et universelle que représente l'Évangile selon Jean. Pour conclure cette soirée, quelques précisions que propose le livre qui nous réunit pourraient peut-être piquer votre intérêt par rapport à ce que j'avais déjà publié sur le quatrième évangile en évoquant au passage l'un ou l'autre point des si riches interventions précédentes. Pour commencer par le début, la question du baptême. Dès le début de l'exégèse de Saint Jean, dans la tradition ancienne, les 18 premiers versets du chapitre 1 ont été considérés comme une introduction à tout l'Évangile. Il en a été question assez vite, et jusqu'à aujourd'hui, comme d'un prologue. L'habitude a été prise plus récemment, on l'a évoqué, d'en parler comme d'un prologue hymnique, parce qu'il a la forme littéraire d'une hymne sur le modèle de textes apparentés sur la sagesse qui parle d'elle-même dans l'Ancien Testament. Et ce texte se trouve ainsi distingué d'un prologue narratif qui suit et ouvre le récit proprement dit. La question se pose de savoir, encore aujourd'hui, jusqu'où prolonger ce prologue narratif. J'avais opté dans la première version de mon travail d'aller seulement jusqu'au récit de la noce à Cana, au début du chapitre 2, qui raconte le commencement des signes après le premier témoignage de Jean et les premières rencontres de Jésus avec ses disciples. Je propose à présent, et je me sens confirmé en ce sens chaque fois que je retravaille un peu le texte, de prolonger ce prologue narratif plus loin, jusqu'au deuxième et dernier témoignage de Jean qui conclut le chapitre 3, donc la rencontre entre Jésus et Nicodème dont il a été question, et ouvre le chapitre 4, donc la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Donc le dernier témoignage de Jean conclut le dialogue entre Nicodème et Jésus avant de céder la place à la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Jean s'en trouve ainsi valorisé, en conformité d'ailleurs avec la place déjà importante, 4 versets sur 18, qu'il occupe dans le prologue hymnique, en Jean 1, 6-8 et 1, 5-15. Jean, soulignons-le, n'est désigné que par son nom, le même que celui de l'auteur présumé de l'Évangile dans le titre du recueil, cela a été relevé. Dans les deux prologues hymniques et narratifs, Jean permet donc de situer avec justesse Jésus qui le suit, selon la chronologie des événements, mais le précède au plan de la création. Jean sensibilise en effet à des dimensions constitutives d'un texte qui ne se définit pas comme évangile, ce terme n'est jamais employé, mais plutôt comme un livre. Parmi d'autres livres écrits à propos de ce que fit Jésus, les deux sommaires des chapitres 20 et 21, dernier chapitre de l'Évangile. Jean 20 et 21, indissociables à leur tour, à mon humble avis, forment ainsi l'épilogue complexe d'un ouvrage qui s'ouvre sur deux prologues conjoints. Sans qu'il soit défini comme bâtisseur ou comme le baptiste, malgré des suppléances apportées à ce sujet jusque dans la dernière traduction liturgique française, Jean introduit surtout la distinction entre baptisé en eau et baptisé en Esprit Saint. 1.33. Alors qu'aucune question majeure ne semble se poser à ce sujet dans les lignes consacrées au premier témoignage de Jean, à l'occasion de son deuxième et ultime témoignage, nous apprenons, comme par mégarde, que Jésus baptisait, en effet. Il n'a pas besoin d'eau comme Jean, à Béthanie au-delà du Jourdain, dans le sud du pays, près de la mer Morte, ou à Aïnon près de Salim, aux confins de la Samarie et de la Galilée. L'auteur de l'Évangile se ravise pourtant en 4.2 par une incise qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en fera sans doute encore couler par la suite. Toutefois, kai toige, apax biblique absolue, ce terme ne se trouve que là, dans tout le corpus biblique. Toutefois, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples, prend soin de dire le commentateur. S'il ne baptisait pas en eau, Jésus explique pourtant à Nicodème que pour voir le royaume de Dieu et y entrer en vue d'avoir une vie éternelle, il faut être engendré d'en haut, c'est-à-dire d'eau et d'esprit, puisque l'adverbe anoten a plusieurs sens. On a beau nous dire que Jésus ne baptisait pas, mais ses disciples, il semble comme échapper à l'auteur de signaler que Jésus baptise quand même. Dans la catéchèse baptismale du dialogue entre Nicodème et Jésus qui précède ses propos, d'autres propos nous apprennent que baptiser en Esprit Saint n'est pas séparable de baptiser en eau, puisque le but du baptême consiste à être engendré d'eau et d'esprit. Pour faire bref, il faut donc admettre que Jésus a bel et bien baptisé, sans pourtant recourir lui-même à l'eau. Même si l'eau exprime l'effet et la finalité du baptême comme condition de la foi qui consiste à être engendré de Dieu, c'est parce que l'eau rappelle l'importance du rôle de Jean. Et si l'eau continue d'être employée dans le baptême chrétien, toute confession confondue, c'est encore pour attester un rapport avec le baptême de Jean. Indispensable pour ce texte, pour l'évangile, selon Jean, à la juste compréhension du baptême en Esprit Saint de Jésus. La question consiste, dès lors, et vous vous la posez, de savoir comment Jésus baptisait, puisqu'il nous est dit à 3 reprises qu'il le faisait, même si c'est pour susciter ensuite la rectification évoquée. L'explicitation vient dans les dialogues avec Nicodème, puis avec la Samaritaine, suivie d'autres, et surtout de longs discours, qu'on ne trouve que dans le 4e évangile, tenus par Jésus. Jésus baptise en eau et en Esprit Saint, voilà mon hypothèse, en plongeant ses auditeurs et auditrices dans la parole qu'il est, comme Verbe fait chair. Il est corps de parole, car il n'y a pas de parole sans corps, il n'y a pas non plus de corps sans parole. Jésus baptise donc en s'entretenant avec les gens qu'il rencontre et qu'il appelle ou guérit, en révélant ainsi, toujours par la parole, mais parole efficace, performative, en révélant qui il est. Catéchèse et enseignement de la foi gagnent, me semble-t-il, à retrouver cette pratique. Je parle ici sous le contrôle du théologien pratique Étienne dans l'Assemblée. La première théologie pratique qui soit à même l'Évangile. La première pastorale d'engendrement est johannique. Théologie pratique comme théologie pastorale réclame tact et respect autant que l'on en voit déployé par Jésus dans ses relations interpersonnelles. Deuxième point que je voudrais mettre en évidence pour enchaîner avec le début de la passion, la question de la glorification. Je peux aller plus vite parce que ce point a été explicitement traité par Michel Fédou, mais je crois qu'il y a en effet à en tirer non seulement les conséquences qu'il évoque, mais beaucoup de points au sujet de l'interprétation du 4e évangile. Au début de la 2e partie du texte, qui s'ouvre par la dernière scène en Jean 13 et se prolonge jusqu'à la prière de Jésus en Jean 17, je me permets en effet d'insister sur les 2 temps de la glorification. Une tendance lourde dans l'exégèse johannique envisage surtout le deuxième temps de la glorification, mais déjà le premier, en termes d'anticipation de la passion, de la mort et de la résurrection. Le texte attire en revanche l'attention sur le fait que Jésus est déjà glorifié au cours de la scène, au moment où sort Judas. Je vous épargne la citation un peu longue de ces versets 31 à 32 du chapitre 13, mais il faut aussi remarquer que nulle part dans la Bible ce verbe glorifier, qui n'a pas de correspondant substantival en grec, dans le grec de Jean en tout cas, le substantif c'est la gloire, doxa, le verbe c'est doxazo, il n'y a pas glorification. Donc ce verbe avec pour sujet Jésus comme fils de l'homme et Dieu à quatre reprises, nulle part ailleurs, cette insistance ne revient dans toute la Bible. L'idée est apocalyptique et cherche à rendre compte de ce qui survient au témoin martyr lorsqu'il va jusqu'au bout de sa foi dans le Dieu d'Israël, mais avant même de mourir dans le cas de Jésus, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas le seul à vivre cette expérience. Elle est magnifiquement célébrée, par exemple, dans le cantique d'Azarias et des trois jeunes gens dans la fournaise en Daniel 3 et 34, et 3, 24, 50 et la suite, 51 à 90, seulement attestée dans la version grecque de ce prophète. Ce cantique revient régulièrement dans notre liturgie des heures, ponctué par le refrain liturgique qui est très éloquent, « À toi, louange et gloire, éternellement », qui imprime bien un mouvement de glorification à ce que vivent les jeunes gens qui échappent à leur mort violente par le feu préparé pour les réduire en cendres. Jésus est donc d'abord glorifié comme fils de l'homme au moment où sort Judas de nuit et avant le récit de la passion et ce qui suit. L'aphorisme du prologue hymnique se trouve ainsi mis en drame ou en récit, et Michel l'a très bien rappelé aussi, « La lumière en la ténèbre lui, et la ténèbre ne la saisit pas. » L'interprétation du premier temps de la glorification de Jésus est donc nette, sans être pourtant, tant s'en faut, reconnue par tout le monde. Qu'en est-il à présent du deuxième temps de la glorification de Jésus par Dieu, indiqué deux fois au futur en Jean 13, 32 ? Pour la majorité des commentateurs, le deuxième temps de la glorification est renvoyé à la passion, surtout à la mort de Jésus en croix, et Michel a bien relevé que la traduction française de Herrlichkeit de Balthazar dans les termes de la gloire et la croix a renforcé cette opinion que la gloire, la glorification, avait lieu à la croix. Elle a lieu avant, ce qui, pour le dire rapidement aussi, explique parfaitement que quand Jésus, parce que c'est une triple théophanie, dit « moi je suis » à ceux qui demandent qui il est, il y a prostration par terre, et on ne sait pas exactement pourquoi, c'est parfaitement cohérent avec une glorification qui est survenue auparavant. C'est une triple théophanie. Donc, le deuxième temps survient dans la prière de Jésus, en Jean 17, qui conclut le discours de la scène. Le verbe « glorifier » ne sera plus employé par la suite, sinon pour l'évocation de la mort martyre de Pierre, déjà connue, en 21-19. Pour le quatrième évangile, Jésus entre dès lors, glorifié dans sa passion, à condition de bien respecter ce que Madame Dominique Hernandez a souligné, qu'il s'agit non pas d'une gloire, on pourrait dire mondaine, mais d'une gloire humble, d'humilité. Certains détails s'en trouvent expliqués. Je viens d'évoquer la triple prostration des soldats qui veulent l'arrêter. La réponse par amour à toute trahison et la prière apparaissent ainsi avec éclat. Alors, pourquoi est-ce que j'y insiste tant ? Ça n'a pas été souligné par mes amis. C'est parce qu'il y a là un enseignement considérable sur notre prière à nous. Notre propre prière, si elle est totale abandon, comme celle du Fils au Père est lieu de notre glorification permanente, avant de partir rejoindre le Fils déjà retourné au Père. Donc, la prière est le lieu de notre propre glorification dès à présent dans notre vie de foi. Alors ça, je l'ai ajouté ce matin. S'il nous arrive par bonheur de passer par la contradiction comme Jésus et de ne le supporter vaillamment comme lui que par la prière. Les deux témoignages de Jean qui se renvoient l'un à l'autre dans le prologue narratif, comme les deux temps de la glorification de Jésus dans la première section de la deuxième grande partie de l'Évangile, fournissent ainsi un accès magistral à la nouveauté de Jésus. C'est, je le confesse, et mes amis l'ont essayé de le dire aussi, c'est ce qui m'éblouit constamment. Pour terminer par la fin, la question de la résurrection. Les deux chapitres consacrés à la résurrection de Jésus dans le sud, à Jérusalem, et dans le nord, au bord du lac de Tibériade, en Galilée, gagnent, à mon humble avis, à être maintenus ensemble. Je lutte depuis longtemps sur l'habitude prise par l'exégèse, on peut dire relativement récente, de voir en Jean 21 un appendice dont on pourrait se passer. C'est une pièce maîtresse de l'organisation de l'ensemble. Donc, en Jean 20 et 21, les deux pôles, Judée et Galilée, des deux premières années de la vie publique de Jésus, se retrouvent au terme du récit. Jean 20 vient confirmer la référence majeure à l'Écriture, à Jérusalem, en matière d'espérance en la résurrection. Il ne savait pas encore l'Écriture qu'il lui faut, d'entre des morts, ressusciter. Le livre, on l'a rappelé, qui transmet par écrit un choix de signes fait par Jésus, vient ainsi s'adjoindre à l'Écriture, évoquée à la croix en termes de parachèvement. Après ceci, sachant Jésus que déjà toutes choses ont été achevées, afin que soit parachevée l'Écriture, il dit « J'ai soif ». Mais Jean 21 vient encore confirmer la compréhension de l'Eucharistie dans son rapport à la résurrection, dont il est question dès Jean 6, et je remercie Dominique de l'avoir relevé, ce point qui me semble important et souvent trop estompé. Assimiler la chair, boire le sang de Jésus, c'est avoir la vie éternelle et être assuré de la résurrection par Jésus au dernier jour, en demeurant aussi en lui dès à présent. Jean 21 assure aussi la complémentarité entre le témoignage de Jean, ce Jean qui n'est défini ni comme le baptiste ni comme le baptiseur, et le témoignage de ce disciple énigmatique qui écrit et dont le nom est également Jean, à en juger par le titre de l'ouvrage, selon Jean, donné à ce disciple qui reste énigmatique de manière délibérée. Les derniers chapitres lèvent un coin du voile sur cette énigme quand même, un coin du voile seulement, respectons l'énigme. À vrai dire, cette énigme est double, elle recèle aussi le secret de la mission dans l'évangile johannique. Simon est la pierre d'angle, il est transformé dans son nom de la communauté en assurant sa cohésion par une autorité reçue de Jésus. Reçue de Jésus. Le disciple que Jésus aimait symbolise la demeure en tant que telle, c'est un autre symbole, le lieu de la présence du Dieu d'Israël, figuré par la tente de la Réunion, ou de la demeure pendant l'exode au désert et par le temple de Jérusalem au temps de la sédentarisation dans la terre promise. Simon, la pierre, est mandaté par Jésus à le confesser en l'aimant jusqu'au témoignage martyr, comme Jean, le Baptiste, avant lui. Le disciple qui porte le même nom, selon le titre du recueil, reçoit quant à lui le mandat de demeurer l'amour. Jusqu'à achèvement, estélos, comme Jésus en personne, c'est-à-dire en jouant un peu sur les mots, jusqu'à ce que je vienne, dit Jésus. Il est demeure amour, jusqu'à ce que vienne Jésus comme amour demeure, seul à pouvoir l'assurer. Jean la demeure n'est pas un rival de Simon la pierre. Il en est la condition et le couronnement, comme l'amour rend seul possible et parfaite toute autorité dans l'Église. Hors d'une telle complémentarité, le cléricalisme sous toutes ses formes cause des ravages. L'insistance du pape François à ce sujet n'est plus à démontrer. Si la violence a culminé dans le mystère pascal de Jésus, il culmine aussi l'absolue résistance au mal. La tâche qui demeure consiste dès lors à ne jamais pactiser avec les forces du mal, autant que possible. Des tournures de langage peuvent bien apparaître dualistes et servir de prise, hélas, trois fois hélas, à l'antijudaïsme et même à l'antisémitisme, reproché pourtant à tort depuis si longtemps à l'évangile johannique. Les dualités qui subsistent trouvent le principe de leur réduction dans l'amour, sans pourtant parvenir, hélas encore, à éviter les dérives de l'iniquité qui persistent également. Le témoignage en cette matière est fiable. L'alliance dans l'Écriture lui sert de fondement. Je suis tout à fait d'accord avec Dominique de voir dans l'alliance finalement le fil conducteur et la nouvelle alliance aussi le fil conducteur de ma lecture. Le chemin est tracé. Il suffit de l'emprunter. Merci encore de tout mon cœur.
Merci beaucoup Yves pour ces paroles, pour ces approfondissements, ces éclairages, même celles qui sont venues ce matin, qui confirment encore l'intérêt de l'ouvrage que tu nous offres. Alors, le temps passe et je crois que nous approchons du terme de notre soirée, mais je voudrais pas que la parole soit quand même monopolisée à cette table et je voudrais, bien, pour ceux qui le souhaitent, vous la donner peut-être pour une question brève ou un éclaircissement, une conviction ou un merci aussi peut-être que vous voudriez faire. Voilà. Oui, monsieur, en parlant de manière forte.
Je réponds tout de suite.
Oui, je pense, oui.
Donc, je voudrais répondre en trois points peut-être. Il y a quand même un prologue dans l'évangile de Marc. Et ici, je parle sous contrôle de Odile Flichy. Je sais pas, elle vient de partir, je crois. Bon. Mais et les deux récits de l'enfance dans Matthieu et dans Luc sont en effet d'une autre teneur. Ce sont des récits. J'ai insisté sur le fait qu'en effet, les 18 premiers versets du chapitre 1 dans l'évangile de Jean sont une hymne. Alors, donc, pourquoi ? D'une part, je pense pour ma part, j'ai encore eu l'occasion de soutenir cette opinion récemment dans des conversations. Je pense que Jean connaissait et Paul et les évangiles synoptiques. C'est vraiment à ce titre-là qu'il arrive au bout de la chaîne rédactionnelle du Nouveau Testament. Et il veut compléter ce qui lui semble indispensable sans répéter ce que les autres ont déjà dit. Et à ce titre-là, ce que Michel Fidou a dit du point de vue, par exemple, théologie de Jean est déjà présente très fortement dans le blog, disons, veut souligner le fait que, voilà, ni Matthieu, ni Luc, ni Marc n'ont un tel projet théologique. Ils ont le projet de raconter. Récit, très, très, très mis en évidence par la narrativité, notamment pour l'œuvre lucanienne, par Odile Flichy dans cette maison, ils ont raconté. Alors, Jean raconte aussi, mais, alors, deuxième chose à souligner, il met en évidence, plus que les autres évangélistes, et certainement que Paul, le rapport à l'origine, au commencement. Et ça, voilà. Plus on a avancé dans le temps, plus on a, on pourrait dire, reculé dans le temps, la naissance avec les récits de l'enfance de Jésus, mais Jean remonte à avant la naissance. Il remonte au commencement, qui est évidemment, enfin, ça n'est pas reconnu par absolument tout le monde non plus, mais une reprise de Genèse 1.1. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire dans un séminaire sur Hommes et femmes de la Genèse à l'Apocalypse, il est tout à fait pertinent d'avoir présent à l'esprit, à la mémoire, le prologue de Jean quand on étudie Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3 et la suite. Donc, voilà, ce qui est encore à ajouter, c'est que non seulement la problématique est plus théologique, Jean veut combler ce qui lui semble des lacunes du côté de ses prédécesseurs, avec aussi donc cette insistance sur la protologie. Je pense, pour ma part, que tant l'Ancien que le Nouveau Testament, du point de vue de l'exégèse, sont encore dominés par une optique eschatologique. Jean prend le parti, ça explique l'importance donnée à la glorification, notamment avant la passion, la mort de Jésus en croix, il prend le parti de souligner, disons, tout ce qui est de l'ordre des commencements, mais aussi des multiples commencements. C'est Paul Beauchamp qui faisait remarquer qu'il n'y a qu'une seule origine, mais il y a plusieurs commencements. Et donc, au fond, toutes ces étapes de la vie de Jésus dans le quatrième évangile sont autant de commencements destinés à cette pédagogie d'engendrement, on pourrait dire baptismal, par la parole que j'ai essayé d'évoquer.
Peut-être une toute dernière remarque ou question, madame. Voilà, je ne sais pas si Yves, tu veux ajouter quelque
non,
chose.
Non, simplement, l'esprit n'est pas mentionné dans la prière. Mais...
Voilà, merci. Voilà, on laisse le Père Simon, merci. Oui, c'est bien, merci.
Il est en effet abondamment question de l'esprit dans l'évangile de Jean, mais il n'est pas nommé explicitement ni dans le prologue, qui est un monument donc pour faire entrer dans cet univers johannique. Il n'est pas nommé non plus dans la prière. Dans ces cas-là, il faut le deviner à l'œuvre du point de vue du texte dans les prépositions et tout ce qui va dans le sens de la relation du Fils au Père en vue de leur communication.
Merci. Je crois que nous allons en rester là. Je voudrais remercier en votre nom encore le Père Yves Simons pour le don qu'il nous fait de ce livre, Dominique Hernandez et le Père Michel Fédou de leur présence parmi nous ce soir. Et puis alors, il ne faut pas exclure que peut-être vous n'avez pas tous cet ouvrage sur votre table de nuit. Donc, rassurez-vous, il y en a pour tout le monde. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore, c'est un prix spécial d'amis ce soir. Vous pouvez vous le procurer à l'accueil. Donc, n'hésitez pas à prendre ce livre, à acheter ce livre. Voilà. Bonne soirée à tous et merci de votre présence.